Voilà, donc tant pis pour vous, fallait pas être adulte. Vous allez devoir m'entendre tousser une demi-heure. D'autant plus que un malheur n'arrive jamais seul et que j'ai décidé de lire un livre entier de la Bible ce matin. Donc j'espère que vous avez de la patience. Alors, j'ai hésité entre le livre d'Ésaïe et la lettre à Philémon. Et coup de bol, j'ai choisi la lettre à Philémon. C'est un tout petit peu plus court. Donc je vais vous le lire. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, le frère, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, et à Appia, notre sœur, et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints. Que ta participation à la foi soit efficace. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause du Christ. Grande joie et consolation m'ont déjà été apportées par ton amour, frère, car tu as réconforté le cœur des saints. Aussi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime, qui jadis t'a été inutile et qui maintenant nous est utile, à moi comme à toi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi afin qu'il me serve à ta place, dans la prison où je suis à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré. Peut-être Onésime n'a-t-il été séparé de toi que pour un temps, afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Il l'est réellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, et en tant qu'homme, et en tant que chrétien. Si donc tu me tiens pour ton frère en la foi, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il a quelque dette envers toi, porte cela à mon compte. C'est moi, Paul, qui l'écris de ma propre main, c'est moi qui paierai. Et je ne te rappelle pas que toi, tu as aussi une dette envers moi, et c'est toi-même. Allons, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Donne à mon cœur son réconfort en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris. Je sais que tu feras plus encore que ce que je ne dis. En même temps, prépare-moi un logement. J'espère en effet, grâce à vos prières, vous être rendu. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. La grâce du Seigneur soit avec vous. Il paraît que toute la Bible, c'est ce qu'elle affirme en tout cas, a été écrite pour notre instruction. Alors, il y a des jours, on se demande, parce que là, on a affaire à une lettre, et qui pour le coup, contrairement aux autres lettres de Paul, qui sont des livres, parce qu'on parle de la lettre aux Romains, de la lettre aux Corinthiens, mais c'est évidemment plus qu'une lettre, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui. Là, on a affaire à une vraie lettre, c'est-à-dire de la dimension des lettres que nous, les uns et les autres, on serait capables d'écrire. Et cette lettre traite d'un problème personnel, d'un problème entre deux personnes, dont on sait que c'est un maître et son esclave, et on se dit, en quoi est-ce que ça peut nous instruire, les relations, même pas entre maître et esclave, parce que ça c'est traité ailleurs, mais les relations entre un maître particulier et un esclave particulier, dont on sait bien que ce sont des relations qui ne sont pas simples, parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. À la première lecture, on se dit, le Saint-Esprit n'a pas deviné qu'au fil des siècles, on ne parlerait plus de ces histoires d'esclavage. Et donc, moi, je continue de croire que c'est là pour notre instruction. Et en fait, je n'ai pas besoin de le croire, parce que j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience pourquoi ? Parce que cette lettre émane de Paul. Paul qui ose quand même le « imitez-moi » et ce qui le rend légitime à dire aux chrétiens « imitez-moi » c'est la fin de sa phrase que vous connaissez. C'est « imitez-moi parce que moi j'imite le Christ ». Personne, évidemment, même pas Paul, n'aurait le droit de dire « imitez-moi ». Et un chrétien doit s'interdire de dire ça à son frère si sa préoccupation essentielle, ça n'est pas lui-même d'imiter le Seigneur. Et s'il n'est pas, évidemment, plus avancé dans ce domaine que celui à qui il prétend servir de modèle. Et donc, moi j'aime bien, j'allais dire, prendre des leçons par comparaison. Alors, oui, en me comparant à Paul, vous allez dire c'est très prétentieux. Non, ça n'est pas prétentieux si je me compare à Paul pour mesurer justement la distance qui me sépare de lui, parce que la distance qui me sépare de lui, c'est l'étendue des progrès que j'ai à faire. Alors moi, je me suis amusé, c'est tout sauf un amusement, je me suis exercé à ça en lisant cette lettre. Et je vous y invite, enfin en tout cas, je vais essayer de vous livrer le fruit de ma réflexion sur ce point. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, à la place de Paul, dans la même situation? Et quand je me pose la question et que je réponds, ben je m'aperçois que j'aurais tout fait de travers. Et donc ça veut dire que tout ce que j'aurais fait de travers, c'est-à-dire tout ce que j'aurais fait différemment de lui, eh ben, c'est l'étendue des progrès qui me reste à faire. Et ça, ça me sert de leçon. Alors, l'histoire, parce qu'il faut quand même en parler, faut remonter un peu en arrière. Il y a eu une époque où Paul, qui a reçu la mission de propager la bonne nouvelle dans tout le bassin méditerranéen, Paul, ça nous est dit dans le livre des Actes, a enseigné pendant 2 ans à Éphèse, dans une école, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte investi ce qui était déjà une école, alors, de philosophie ou de théologie, appelez ça comme vous voulez, et pendant 2 ans, il a enseigné. Et ce qu'on sait, c'est que, du coup, sous l'impulsion de Paul, cette école, école de la foi, puisque ce qu'il enseignait, c'était le message, ce fameux évangile, le message de la bonne nouvelle, cette école, donc de Tyrannus, a eu un rayonnement extraordinaire, au point que non seulement tous les gens d'Éphèse, enfin pratiquement tous, sont venus l'écouter à un moment ou l'autre, mais on venait de beaucoup plus loin qu'Éphèse, et on venait des villes alentour, et parmi les villes dont on venait pour écouter Paul à Éphèse, eh bien, il y avait une ville qui s'appelait Colosse, enfin, qui s'appelle d'ailleurs, et donc, il y a eu, parmi les gens qui ont été sensibles, qui ont reçu le message de l'Évangile dans l'école de Tyrannus à Éphèse, il y a eu des Colossiens, qui sont évidemment, comme il y a eu des Laodicéens, comme il y a eu des gens de plusieurs villes, ces gens-là sont repartis chez eux avec une seule ambition, propager à leur tour le message et fonder une église. Donc, pour ce qui concerne les Colossiens, il y en avait 2 qui étaient marquants. Il y avait Epaphras, qui est devenu un des responsables de l'église de Colosse. Et puis, il y avait aussi, parmi les responsables de l'église de Colosse, il y avait le fameux Philémon, qui avait plusieurs caractéristiques. C'était quelqu'un d'aisé financièrement, parce qu'il avait une maison suffisamment grande pour y recevoir, pas forcément toute l'église de Colosse, mais au moins une partie, puisque les églises fonctionnaient avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des groupes de maisons ou des groupes de quartiers, c'est-à-dire il y avait non seulement l'église, les réunions plénières, mais il y avait dans des endroits ou d'autres des réunions plus familiales, un peu comme on le fait aujourd'hui. Et un de ces groupes de quartier se situait chez Philémon. Donc il était suffisamment aisé pour, d'une part, avoir une grande maison, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, et d'autre part, avoir des esclaves, ce qui n'était pas évidemment non plus le cas de tout le monde, parce que les esclaves, il fallait les acheter. Et donc, ce fameux Philémon a des esclaves, et parmi ces esclaves, il y en a un avec qui... Alors, faut se méfier de ce qu'on lit à propos de Philémon, parce qu'il y a la lecture classique où on rajoute des détails, où on dit par exemple que quand Paul a écrit cette lettre, il était prisonnier à Rome. Ça n'est pas forcément vrai, les études qui ont été faites. Alors, bien sûr, Paul est prisonnier puisqu'il l'écrit, mais prisonnier à Rome, c'est pas sûr. Il a été prisonnier à plusieurs endroits, Paul, tout le monde le sait. Avant d'être prisonnier à Rome, il a été prisonnier à Césarée. Enfin bon, je n'entre pas dans des débats, savants. Contentons-nous de savoir que, à la fin de sa vie, puisque il dit « je suis un vieillard », vous l'avez entendu, moi qui suis un vieillard, donc à la fin de sa vie, Paul se retrouve prisonnier et arrive là où il est prisonnier. Alors, une précision aussi, prisonnier, il ne faut pas l'imaginer derrière des barreaux dans une cellule comme les prisonniers aujourd'hui. C'est l'équivalent de assigné à résidence, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de bouger de chez lui, mais il a un chez lui et il peut, à l'inverse, recevoir des visites autant qu'il veut. Et Paul, parce que chez lui, c'est devenu un réflexe, partout où il est, quelle que soit sa condition, Paul, il annonce ce qu'il a reçu à annoncer, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et partout où il est, encore une fois, quelle que soit sa condition, même dans la condition d'assigné à résidence, il essaye de partager sa foi avec tous les gens qui l'approchent. Et ça marche. Ça marche au point que, donc, parmi ces gens, il va se trouver ce fameux Onésime. Alors, Onésime, ça veut dire utile. Et c'est typiquement un nom d'esclave, puisque alors il y avait, je ne vais pas dire que la moitié des esclaves s'appelaient Onésime, mais enfin il y en avait un bon paquet. C'est presque un terme générique, bon, et on les appelait utiles parce que un esclave à l'époque c'était fonctionnel. Et donc il voit arriver ce type et comme à tous les autres, eh bien il annonce ce qui lui a été donné d'annoncer, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et Onésime, qui sait déjà de quoi il est, parce que Onésime n'est pas venu rejoindre Paul dans sa prison par hasard. Onésime, c'est l'esclave de Philémon, donc il n'a pas directement entendu Paul, puisqu'il n'est pas allé avec son maître de Colosse jusqu'à Éphèse. Mais quand son maître est revenu à Colosse et que l'église de Colosse a été fondée, bien sûr que le fait pour Philémon d'être chrétien, ça a retenti sur tout son entourage, non seulement sa famille, mais aussi les domestiques et les esclaves, et que Onésime savait pertinemment que Philémon était devenu chrétien, ce qui n'a pas empêché le conflit, d'ailleurs. Et ce qui n'a pas empêché Onésime de, on peut le dire comme ça, se faire la malle, ou en tout cas de quitter. On ne sait pas si c'était un esclave en fuite véritablement, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées entre les deux, puisque c'est à ça que Paul s'attaque. Et donc, Onésime vient chez Paul, vient auprès de Paul, avec une intention particulière, c'est-à-dire se réfugier chez quelqu'un qu'il connaît, parce que c'était le problème des esclaves en fuite, c'est que quand on est esclave, on n'est rien, on ne possède rien, et du coup, alors qu'on est chez son maître, logé, nourri, blanchi, chauffé, éclairé, et que c'est depuis la naissance, on n'a pas le réflexe de l'autonomie, on ne sait pas gagner sa vie, donc il faut aller... Quand un esclave se retrouve comme ça, livré à lui-même, et ça a été le problème d'ailleurs à l'abolition de l'esclavage au temps moderne, c'est qu'il y a beaucoup d'esclaves qui se sont dit « c'est bien gentil de nous donner notre liberté, mais comment on va manger maintenant ? Parce que qui va nous donner du travail ? Qui va nous nourrir ? Qui va nous loger ?» et c'était le problème aussi dans l'Antiquité des esclaves en fuite ou des esclaves affranchis. Et donc, il va aller vers quelqu'un dont il a entendu parler et dont il a entendu parler en bien, c'est-à-dire Paul, en se disant, mon maître, même si je suis en conflit avec lui, disait tellement de bien de ce type que peut-être que là, j'ai quelque chose à gagner. Et donc, voilà comment Onésime se retrouve auprès de Paul. Le message passe. Onésime se convertit à la foi. Et après, il va se mettre, évidemment, alors avant ou après, peu importe, on ne nous dit pas à quel moment. Mais il y a un moment, tôt, un peu plus tôt ou un peu plus tard, où il va dire à Paul, « Bon, tu sais, j'ai quelque chose à t'avouer. Alors, je suis venu vers toi parce que, du temps où j'étais chez Philémon, j'entendais des éloges, tu étais le meilleur, etc. Et donc, je me suis dit que là, au moins, je serais accueilli et que je pourrais trouver du réconfort, un accueil, etc. Mais c'est loin d'être réglé entre Philémon et moi, parce que je suis parti. Alors, peut-être que ça va jusque-là, je me suis enfui. Ou en tout cas, je suis parti en emmenant des choses que j'aurais pas dû emmener ou en réglant pas certains comptes. Et là, Paul va lui dire, au bout d'un certain temps, puisque Paul va le garder auprès de lui pendant un temps, puisqu'il dit, il m'a servi moi, et il va finir par lui dire, eh ben, tu vas retourner voir ton maître, Philémon, avec une lettre de ma part, dans laquelle je vais suggérer de régler le problème. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire Philémon va recevoir une lettre, le facteur, et avec le facteur, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de poste, donc il fallait, quand on écrivait une lettre, il fallait l'envoyer, mais il fallait matériellement trouver quelqu'un pour aller la porter, ce qui sera le cas, et en plus, il y aura le gars en question, c'est-à-dire Onésime, qui va revenir auprès de son maître en disant « Ben voilà, j'ai une lettre pour toi. » Quand on réfléchit à tout ça, et quand on voit cette histoire autrement que comme un simple récit, comme un simple billet comme ça envoyé à la va-vite, faut une sacrée confiance les uns dans les autres. Parce que si vraiment Onésime est un esclave en fuite, la sanction, c'est la mort. Un esclave en fuite qui se fait rattraper, déjà, un maître a le droit, dans l'Empire romain, a le droit de vie et de mort sur son esclave, a fortiori s'il se fait la malle. Donc, c'est pas de la littérature, c'est des enjeux considérable. En acceptant d'aller chez Philémon avec la lettre, Onésime sait que si l'autre est intransigeant, il va y laisser sa peau. Et donc, voilà comment Paul traite la question. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je me suis dit, comment j'aurais fait à sa place? Et j'ai fait la liste, c'est le jeu des sept erreurs. Donc j'ai fait la liste des sept erreurs que j'aurais commises à la place de Paul. À la question « qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?», ben, j'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible, et je me serais planté sept fois. Et cette fois, ce qu'a fait Paul, au lieu de faire ce que moi j'aurais fait à sa place, ben, ça me sert de leçon, et ça m'aide à grandir un tout petit peu. On fait les pas les uns après les autres, hein, on en est tous là. Donc qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Moi, au lieu d'écrire ça, j'aurais écrit la deuxième lettre aux Colossiens. Il y a bien eu deux lettres aux Corinthiens, deux lettres aux Thessaloniciens. Il n'y avait pas d'inconvénient particulier à ce qu'il y ait deux lettres aux Colossiens. Je n'aurais pas écrit une lettre personnelle à Philémon. J'aurais écrit une deuxième lettre aux Colossiens dans laquelle j'aurais traité un peu plus profondément que dans la première. Parce que dans la première, il y a déjà un petit paragraphe sur l'esclavage, vous le savez peut-être. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vais vous le lire. Donc, Colossiens 3, 18. Alors, Colossiens 3, 18. Ça commence par épouse, parce qu'on traite d'une autre forme d'esclavage d'abord. Non, je plaisante. « Épouses, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Bon, enfants, obéissez à vos parents. » Et on en vient à « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Servez-les non parce qu'on vous surveille comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec la simplicité de cœur que ceux qui craignent le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. Qui se montre injuste sera payé de son injustice, et il n'y aura d'exception pour personne. Maître, traitez vos esclaves avec justice et équité, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ça, c'est le paragraphe dans la lettre, dans la seule, du coup, lettre aux Colossiens, sur la question de l'esclavage. On a beaucoup reproché ça à Paul. On a beaucoup reproché à Paul le fait d'entériner le système de l'esclavage. Beaucoup de commentateurs ont dit, bah, quand même, il aurait pu prêcher l'abolition. C'était le moment ou jamais. Ça n'aurait rien réglé. Paul, c'est quand même celui qui a affirmé fortement ce qu'on appelle l'égalité ontologique, c'est-à-dire que devant Dieu, dira-t-il et écrira-t-il, il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Il n'y a pas de différence entre un maître et un esclave. Mais ça, en écrivant ça, il sait déjà qu'il faudra des siècles et même des millénaires, et ce n'est pas encore fini, pour que ça rentre jusque dans les consciences et jusque dans les pratiques de l'humanité. Là, il ne s'agit pas de ça. Donc moi, je vous dis, à sa place, j'aurais écrit une deuxième lettre aux Colossiens en disant, bon, on va théoriser un peu plus les relations entre maître et esclave pour pas qu'il y ait ce genre de problème. Et Paul, il est capable de ça. C'est un intellectuel, il n'y a pas de souci. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Et pourquoi est-ce que si on fait ça, on se plante? Mais parce que l'Église, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de l'idéologie, c'est d'abord, et la première partie du culte est là pour en témoigner, c'est d'abord des relations. C'est d'abord des relations. Et là, Paul sait que dans la situation présente entre Onésime et Philémon, sa force à lui, Paul, c'est pas d'être un intellectuel, c'est pas d'être un théologien, sans doute le meilleur de son temps, c'est pas de parler quatre langues, c'est d'avoir avec les deux protagonistes des relations privilégiées. Et c'est une affaire personnelle, et c'est une affaire individuelle, et c'est comme ça qu'il va la traiter, parce qu'il sait que l'Église, c'est d'abord ça. C'est d'abord comme ça que ça se construit. Pas avec des idées, pas avec des idéaux, pas avec une doctrine, mais avec des relations. Et que c'est suffisamment important, suffisamment capital, essentiel, pour que quand ces relations-là sont abîmées, même entre des gens qui sont, en l'occurrence, à peut-être des centaines de kilomètres l'un de l'autre, eh ben ça vaut le coup qu'on s'arrête. Et ça vaut le coup que ma relation privilégiée avec les deux, elle serve à ça. Elle serve à servir de médiateur. Donc moi, la première leçon que je reçois, elle est double. Elle est premièrement, arrête de penser que l'Église, ça se construit avec des théories. Et arrête de penser que quand il y a un problème entre deux personnes, on va faire une étude biblique. Non, on va se servir des relations qu'on a avec les deux pour régler le problème très concrètement. Et quand je dis que la leçon, elle est double, c'est as-tu, toi, Yann, des relations suffisamment privilégiées avec les uns et les autres pour que s'il y a un problème entre deux d'entre vous, je puisse aider à la médiation. Parce que Paul, il a cette qualité-là de relation. Il est capable de dire d'Onésime, c'est mon enfant dans la foi, et de dire à Philémon, tu me dois tout. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est très bien placé pour régler le problème entre vous, eh bien, c'est moi. Et donc ça, ça ne passe pas par une énième lettre qui ressemble à un manuel de théologie. Ça passe par quelque chose qui dit de soi-même, j'aurais pu t'écrire, il dit, j'aurais pu faire de la théorie, j'aurais pu faire de la théologie, je sais faire ça, mieux que personne. J'écris au nom de l'amour, au nom de l'amour que j'ai pour vous deux, et au nom de l'amour que chacun de vous a pour moi. Alors, ça c'est une grande leçon.
on n'est pas tous théologiens, d'ailleurs, si on veut bien être honnête, aucun de nous n'est théologien, aucun de nous n'arrive à la cheville de Paul dans ce domaine, mais ce n'est pas la question. Quelle qualité de relation avons-nous les uns avec les autres pour que le moment venu, cette qualité de relation soit utile s'il y a un problème entre l'un et l'autre, l'une et l'autre, je puisse être le pont entre les deux pour la réconciliation. Et ça, c'est une grande leçon.
Mais ça n'est que la première, et j'ai dit que j'en avais reçu sept, donc on est mal barré. Bon. La deuxième chose que j'aurais faite, évidemment, dans la peau de Paul, c'est de dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentils, mais moi, Dieu m'a donné une mission qui consiste à répandre sa bonne nouvelle dans tout le bassin méditerranéen. Moi, les problèmes entre une personne et une autre, c'est pas à mon niveau, tout simplement. Moi, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, parce que je suis prisonnier, machin, etc. J'ai pas beaucoup de temps devant moi pour diffuser massivement l'évangile. Je vais pas m'arrêter à régler des problèmes entre des individus, sinon j'en sors pas. Il y a des gens pour ça. Il y a des responsables à l'église de Colosse, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des anciens et des diacres. Eh ben, vous allez l'un et l'autre, puisque vous dépendez de vos responsables à Colosse, notamment Epaphras et un certain nombre d'autres, eh ben vous allez aller les voir et puis ils vont régler ça entre vous. Moi, c'est pas à mon échelle. Moi, mon échelle, elle est macroéconomique, pas microéconomique. Et ça aussi, c'est quelque chose que Paul ne fait pas. Parce que Paul, il sait, et beaucoup mieux que moi, que l'Église, effectivement, ça a vocation à être un phénomène de masse. Mais l'Église, c'est des individus que le Seigneur lui-même est allé chercher un par un. Quand Paul dit « imitez-moi parce que je l'imite », alors là, pour le coup, il sait l'imiter. Parce que le maître, et ça c'est la deuxième grande leçon que j'ai prise, c'est comment tu te donnes comme maître et comme modèle quelqu'un qui n'avait que 3 ans devant lui pour annoncer le salut au monde et qui malgré ça a passé l'essentiel de son temps dans des rencontres individuelles et tu oserais dire « mais ça c'est pas à mon niveau ». Mais tu es le disciple de qui ? Le Seigneur lui-même, qui avait pour mission, comme dira Jean-Baptiste, d'enlever le péché du monde, il passe son temps à rencontrer des individus, un par un. Pas le monde, je m'adresse à vous, parce que là, il suffisait qu'en lettres de feu dans le ciel, Dieu écrive « J'ai une bonne nouvelle pour vous », bon, et puis le livre se serait déroulé. Il a choisi d'être un homme pour aller individuellement à la rencontre des hommes et des femmes. Et aucun ici ne peut prétendre être venu à la foi dans le cadre d'un phénomène de masse, dans le cadre d'un phénomène collectif. Ou bien il t'a, là il faut utiliser le singulier, rencontré individuellement, ou bien alors, pardon, mais t'es passé à côté de quelque chose. C'est pas un phénomène collectif, c'est une rencontre. Et donc Paul, et donc a fortiori, qui suis-je pour ne pas être l'imitateur de l'imitateur de mon maître ? Paul, même s'il a reçu pour mission, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure, sinon ce serait mal parti, d'évangéliser le monde connu de l'époque, eh ben, il prend le temps d'être avec les uns et avec les autres dans des relations individuelles approfondies
Et moi, je peux vous dire que c'est la deuxième baffe que j'ai prise. Après, tiens, toi, avec ton ambition d'écrire des manuels de théologie surtout et le reste, c'est pas comme ça qu'on fait. La deuxième baffe, c'est est-ce que tu prends le temps de connaître les gens individuellement, dans des relations profondes qui permettent ça? Parce que il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre que si les relations entre Paul et Philémon d'une part et Onésime d'autre part avaient été superficielles, jamais il n'aurait pu jouer ce rôle-là. Bon. Faut que j'aille. On pourrait s'arrêter sur chaque point très longtemps, c'est dommage, mais on va faire ça de manière synthétique. La troisième bêtise que j'aurais faite, c'est que moi, le jour, alors avant sa conversion, après sa conversion, peu importe, le jour où Onésime a craché le morceau, en me disant, je me mets toujours dans la peau de Paul, hein, en disant, faut quand même que je t'avoue un truc, c'est pas réglé avec mon maître. Soit je me suis barré, soit je lui ai piqué du pognon, enfin, de toute façon, il y a quelque chose de ce genre-là. Hein. Moi, j'aurais illico, mais alors, à coup de pied quelque part, dit, bah, tu y retournes. Tu y retournes et tu règles ça, mais tout de suite. Parce que c'est hors de question. Parce que, du coup, à l'instant où il le sait, Paul se rend complice. Et si Philémon apprend que Onésime est auprès de Paul, que Paul sait toute l'histoire et qu'il s'en accommode très bien, ça va mal se mettre entre les deux. Et donc moi, je renvoie Onésime chez Philémon instantanément. Et pourtant, ce n'est pas ce que Paul va faire. Pourtant, Paul va, au risque de se compromettre, parce que c'est de la complicité, il va garder Onésime avec lui, puisqu'il dit « il m'a bien servi, donc ça a pris du temps », le temps que tout ça fasse son chemin. Parce que il faut que Onésime adhère au projet de Paul. C'est pas autoritairement que Paul va dire à Onésime « tu y retournes ». Au moment où Onésime accepte de repartir avec la lettre, il est d'accord avec la démarche. Sinon, c'est simple. Au premier virage, hop, il prend à gauche et on n'en parle plus. Et on ne le voit plus, ni Paul ni l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a chez Paul, puis alors là, pour le coup, chez Paul et pas chez moi, cette qualité, c'est que d'une part, Onésime va aller vers lui, c'est-à-dire il va aller chez un ami, et un ami très proche, de quelqu'un avec qui il est en conflit, en disant, et il n'est pas converti à ce moment-là, en se disant, bah, peut-être que la solution, elle est là. Peut-être que la solution, elle est chez ce mec. Encore une fois, à ce moment-là, il n'est pas converti. Et moi, je voudrais avoir cette qualité-là. Je sais qu'il y en a, je pense à certains d'entre vous, qui l'ont. Et je la voudrais bien, moi. Je ne l'ai pas. C'est que des gens qui ne sont pas chrétiens me fassent suffisamment confiance pour dire, même si c'est le meilleur pote de mon pire ennemi, ben, j'ai intérêt à aller vers lui. Pas évident, ça. J'ai intérêt à aller vers lui, et mettez-vous encore une fois dans la peau d'Onésime, parce que je sais que je ne serai pas jugé. Parce que je sais que, même si inévitablement je vais lui dire ce qui se passe, je ne vais pas me prendre ce jour-là un grand coup de pied quelque part en disant bah, « je ne te connais plus, barre-toi, va régler tes problèmes, mais ne me rends pas complice de ça. » Il sait, Onésime, sinon il ne va pas vers Paul. Il sait que ça ne se passera pas comme ça, parce que Paul, ce n'est pas le théologien froid qu'on dépeint volontiers, c'est quelqu'un d'infiniment humain. Et c'est quelqu'un qui ne juge pas, même si dans certains de ses écrits, on le dépeint comme quelqu'un d'intransigeant. Alors effectivement, quand il faut l'être, il l'est. Mais c'est aussi quelqu'un d'accueillant, c'est aussi quelqu'un de bienveillant. Et la bienveillance, c'est reconnu quand on a cette qualité-là, non seulement par les autres chrétiens, ce qui a évidemment un certain intérêt, mais aussi et surtout par les autres. Le fait de voir en nous quelqu'un de bienveillant, eh bien ceux qui ne sont pas chrétiens vont être attirés en sachant que même s'ils avouent, j'allais dire, le pire des crimes, là, c'est déjà, il y a déjà la dose, eh bien, ils ne seront pas jugés, ils ne seront pas foutus dehors, et que le temps que les choses se mettent en place, c'est-à-dire, en l'occurrence, le temps qu'Onésime se convertisse et le temps qu'il accède à l'idée, ce qui ne s'est pas forcément fait instantanément, le même jour, mais qu'il accède à l'idée que ce problème-là avec son maître doit être réglé, eh bien, Paul prendra patience. Est-ce que j'ai cette patience? Et est-ce que j'ai cette bienveillance qui donne aux autres l'envie de venir vers moi et chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Ben, en ce qui me concerne, la réponse est contenue dans la question. Alors, finalement, connaissant mon pragmatisme, à la réflexion, j'aurais peut-être fait l'inverse. C'est-à-dire, plutôt que de renvoyer Onésime instantanément, ben, j'aurais gardé Onésime. En plus, c'est pratique, il rend service, Onésime, c'est dans ses gènes. Il est né comme ça, on l'a éduqué en disant bah, « t'es là pour servir, à manger, faire la vaisselle, les courses, le ménage, la lessive ». Bon, donc c'est super un type comme ça. Et moi, je l'aurais gardé près de moi. Il n'y a pas une chance sur un million pour que ça arrive aux oreilles de Philémon. Si personne ne cafte, c'est gagné. Donc moi, je suis Paul, je me dis « bon, bah, on ne va pas aller créer des problèmes là où il n'y en a pas. Hein. » Et la meilleure thérapie, et moi je vous promets, je suis vraiment un adepte de ça, c'est la distance. Il est en conflit avec un mec qui est à l'autre bout. C'est pas grave, il n'a qu'à rester à l'autre bout. Hein. Il suffit de ne pas provoquer une rencontre entre les deux, et comme ça c'est plié. Ça fait sourire, dit comme ça, mais bon... Je ne vise personne, mais des gens qui règlent des problèmes... Enfin, je ne vise personne, évidemment. Mais c'est quand même pas une pure invention d'imaginer qu'il y a des gens qui pensent régler des problèmes en mettant de la distance. Et moi, j'avoue que parfois, je suis un adepte de ça, en disant, écoute, le mieux pour pas se taper dessus, c'est encore que... Hein, il y a une autre église à 15 bornes, va et puis où je reste là ou l'inverse et puis comme ça on évite les conflits et puis ça reste comme ça sauf que et là la psychologie moderne vient à notre secours mais évidemment le Saint-Esprit n'a pas attendu les psychologues pour le savoir mais ça ne règle rien de faire semblant qu'il n'y a pas de problème le être dans le déni. C'est-à-dire, tout va bien. Vous vous souvenez, alors, là aussi, je pourrais développer. Hein. Va chercher ton mari. Moi, je suis célibataire. Et Jésus dit, non, attends. Non. C'est pas parce que tu es célibataire aujourd'hui que tu peux t'asseoir sur ton passé comme on met un couvert sur une cocotte minute. Parce que ça, ma cocotte, c'est le cas de le dire, ça va te péter à la figure. Donc, il faut régler ça. Et Jésus, encore une fois, avant de s'intituler psychothérapeute, il sait très bien que si on n'est pas guéri de son passé, eh ben, on n'est pas libre dans le présent. Et Paul aussi a compris ça. Paul aussi a compris que, en l'occurrence, ni Philémon ni Onésime ne sont des hommes libres. Pourquoi ? Parce que Philémon, il l'a là, hein, encore, cette histoire. Cette histoire d'esclaves qui soit carrément prend la fuite, soit en tout cas emmène une partie de la vaisselle en argent, ça c'est un. Alors, je suis chrétien, je vais le dimanche matin au culte, mais alors lui par contre, si je le croise, il faut pas qu'il reste sur le même trottoir. Hein, ou elle. Et ça, c'est pas la liberté. Et alors, Onésime, pas libre non plus, parce que même s'il est dans le déni, y a quand même, alors là pour le coup, je ne sais pas ce qu'il a emmené, mais je sais ce qu'il a derrière lui comme casserole. Et donc, Paul sait très bien, et moi j'avoue que parfois par paresse ou par facilité, j'ai tendance à dire, bon, t'écrases le cou, on laisse comme ça, et puis le temps fera... Non, non. Le temps fait les choses si, comme Paul, intelligemment, on se sert du temps pour trouver le bon moment. Mais sinon, la distance, par exemple, ça n'est pas thérapeutique dans ce domaine. Ça ne guérit pas. Et c'est pour ça que Paul se complique la vie en disant « Non, non, mais il faut régler ça. Il faut régler ça parce qu'il faut que vous soyez libres tous les deux. » Onésime va être rendu libre par le pardon qu'il va recevoir de Philémon. Et Philémon va être rendu libre par le pardon qu'il va donner. Tous les gens qui ont eu une chose lourde à pardonner et qui l'ont fait, vous le diront. Ça m'a rendu libre. La vraie liberté, elle est là. Elle est dans le don du pardon. Aussi. Et donc, ce que j'aurais fait, moi, par facilité, eh ben, c'était pas non plus la bonne solution dans ce domaine. J'avais noté une référence, je ne sais plus du tout de quoi il est question, enfin, c'était dans Matthieu 5, à ce propos-là, hein, Matthieu 5, 23 et 24, donc je le découvre en même temps que vous. Ah oui! Quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère, pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, viens alors présenter ton offrande. C'est exactement ce que Paul va non pas imposer, mais suggérer à Onésime en disant, tu te souviens qu'il y a là-bas ton maître, donc on ne va pas laisser les choses comme ça. On ne va pas laisser les choses comme ça. Tu vas aller voir ton maître, tu vas régler ça, et après, tu seras un disciple libre. Alors, la sagesse de Paul, là, c'est de ne pas faire ça n'importe quand. C'est de choisir le temps et le moment pour le faire. Mais de toute façon, ça doit être fait un jour ou l'autre, parce que la liberté est à ce prix-là. Cinquième bêtise que j'aurais faite, toujours par pragmatisme, moi j'aurais envoyé une lettre à Philémon, peut-être la même, mais j'aurais pas envoyé Onésime avec. J'aurais fait une lettre, cher Philémon, Onésime, c'est un scoop, est à mes côtés, je sais tout ce qu'il a fait et que tu as à lui reprocher, sois gentil, pardonne-lui, merci, à bientôt, Paul. Hop. Et comme ça... Parce que envoyer Onésime avec la lettre, c'est, là encore, compliquer la tâche à tout le monde. Parce que il y a un risque considérable, c'est que, parce que, encore une fois, vous l'avez lu avec moi, Paul n'impose rien à Philémon. Il supplie. Donc Philémon, et c'est la loi en plus, peut dire, bah, je suis désolé, mais moi, un esclave qui m'a enflé, je sanctionne. D'abord parce que ça risque d'être un mauvais exemple pour les autres esclaves que j'ai chez moi. Parce que si j'accueille à bras ouverts un esclave qui s'est barré, je prends le risque que demain matin, les autres en fassent autant. Donc c'est hors de question. Et puis en plus, et ça aussi ça ressort de la lettre, il m'a volé. Donc, il me doit de l'argent. Donc, au moins, c'est la moindre des choses. Je vais le garder jusqu'à ce qu'il ait remboursé ou jusqu'à ce qu'il ait travaillé suffisamment longtemps pour que j'estime qu'on est quitte. Sauf que, là encore, l'authenticité du pardon, elle est à ce prix-là. Le fond du problème, c'est quand même un problème de liberté. C'est la liberté d'Onésime qui est en jeu. Et si Paul prétend obtenir, par la qualité de ses relations avec l'un et l'autre, une vraie liberté pour Onésime, ben, il faut qu'il respecte une vraie liberté pour Philémon. Parce que recevoir un papier en disant « Bon, tu feras comme tu voudras, mais il est à côté de moi, il y reste, et t'es prié de le pardonner, merci », où il est le choix ? où il est le choix. Renvoyer une lettre en disant bah non, je pardonne pas, tu me renvoies le paquet. Pas de sens. C'est pas ça la liberté. Et Paul va donner une vraie liberté à Philémon en lui disant bah voilà, tu l'as sous la main. Si tu veux être rigoureux dans l'application de la loi, eh bah t'appliques la loi. Tu le sanctionnes, tu le punis, même sévèrement, même éventuellement, tu l'exécutes. C'est entre tes mains. Moi, je demande, moi, je prie, et je te dis, voilà, tu peux le garder ou me le renvoyer, ce qui pour Philémon va demander un effort supplémentaire, parce que j'ai récupéré le mec qui m'a enflé, je l'ai sous la main, il est à ma merci. Et ce que je vais faire, c'est lui dire, bah, je te pardonne, exactement ce que Paul lui demande, je te pardonne, je t'accueille comme un frère. Paul ira jusqu'à écrire « Accueille-le comme si c'était moi, je t'accueille et je te prends dans mes bras comme si t'étais Paul, mon père spirituel. » Et cerise sur le gâteau, je te dis « Bah oui, j'accepte l'inacceptable, c'est-à-dire je te libère pour que tu puisses retourner servir Paul. » Et quand Philémon comprend qu'il y a tout ça entre ses mains, il est tenté de se dire « Non mais c'est tout, deux cafés l'addition C'est énorme ce qu'on lui demande. » Et pourtant, la vraie réconciliation entre l'un et l'autre, elle est à ce prix-là. Moi, je ne sais pas si je serais allé jusque-là. Et du coup, ça m'interpelle. Quand je demande quelque chose à quelqu'un, un service, quand je fais une prière à l'un de vous ou à quelqu'un d'autre, est-ce que je mets mon interlocuteur en situation d'accepter ou de refuser en toute liberté? Est-ce que je ne mets pas dans la balance les conditions pour que ben, tu ne peux pas dire non, quoi? Tu ne peux pas dire non parce que je fais en sorte que la question soit posée de telle manière que tu ne veux pas pardonner à Onésime que je garde précieusement à côté de moi? Allô, ben oui, comment faire autrement? Non, c'est pas ça. Tu veux pas me pardonner ça ou ça, maintenant que je t'ai invité à manger, qu'on a pris le café, le digestif, et que je t'ai offert un bouquet de roses ou je sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça. C'est est-ce que, en toute liberté, et les conditions de la liberté, c'est à moi de les créer, tu veux bien faire ça pour moi, alors que tu n'y es pas obligé. Voilà ce que Paul fait en envoyant le bonhomme avec la lettre. Sixième erreur, alors ça, tout droit j'y serais allé. Paul qui dit « Je suis le père spirituel d'Onésime » et qui dit à Philémon la même chose dans une autre formule « Tu me dois quelque chose et ce que tu me dois c'est toi-même » autrement dit, c'est grâce à moi que l'un et l'autre vous avez entendu le message qui vous sauve, alors vous allez faire ce que je vous demande, et ce n'est pas négociable. Là, je ne demande pas. J'ordonne. J'ordonne, moi qui suis... Je ne vais pas dire j'ai horreur d'une expression biblique, mais je me méfie de cette expression à cause du dévoiement qu'on peut en faire. Mais moi qui suis le père spirituel de l'un et de l'autre, je dis à mes enfants dans la foi... Voilà ce que vous allez faire. Et Paul n'utilise jamais de formule paternaliste, pas pater, mais fraternaliste. C'est-à-dire, il se place au niveau de ceux qu'il appelle ses enfants dans la foi, c'est-à-dire en disant, si, même... Il en fait des tonnes en disant « si vous acceptez de me considérer comme un frère, alors je vous le demande comme un frère. Je te le demande à toi, Philémon, comme un frère. Accueille-le comme si c'était moi. » C'est pas moi qui ai une autorité quelconque sur toi, parce que non seulement... Si je n'existais pas et si j'étais pas là, tu serais pas chrétien, mais il n'y aurait même pas d'église dans ta ville, il n'y aurait rien de tout ça et tu serais perdu dans ton désespoir. Ça va, tu vas pas me faire une pendule pour un esclave. Surtout que l'esclave est devenu chrétien aussi. Et puis entre chrétiens, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Non, c'est s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que je sais faire ça, moi ? Réponse non. Non. On a tous le réflexe, quand on peut prendre l'ascendant sur quelqu'un et qu'on a quelque chose à lui demander, de glisser vers cette tendance de mettre en avant sa propre créance, parce que ça rétablit l'équilibre. Je te demande ça, mais tu me dois ça. Paul dit à Philémon, ce que tu me dois, c'est ta vie elle-même. Tu te dois à moi, toi-même, puisque ton salut, il est passé par moi. Donc, en faisant ça, tu me rembourses une toute petite partie de ce que tu me dois. Pas du tout. S'il te plaît, si tu veux bien me considérer comme un frère, fais ça pour moi. J'ai du chemin à faire, hein ? Et puis alors, là, j'ai presque fini. Septième bêtise que j'aurais pas faite, alors là, c'est le Normand qui vous parle. La reconnaissance de dette, parce qu'il y a une reconnaissance de dette dans la lettre, hein, quand il écrit, ça c'est une formule juridique, c'est « j'écris de ma main, c'est moi qui paierai », ça c'est une reconnaissance de dette. Parce qu'il fallait qu'une reconnaissance de dette, comme d'ailleurs aujourd'hui, ce soit écrit de la main de celui qui... Donc, Paul sait qu'il y a un problème de pognon, soyons clairs, entre Philémon et Onésime, et il dit « s'il y a quelque chose à payer, c'est moi qui paye, et je signe ». Donc là, n'expliquez pas à un Normand que c'est une bêtise qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire signer une reconnaissance de dette pour quelque chose qui est dû par quelqu'un d'autre. Attends, moi je veux bien rendre service. Hein. Tout ce que je vous ai dit maintenant, je veux bien faire des progrès jusque-là. Donc je veux bien être attentif à cultiver avec les uns et les autres des relations approfondies, tout ça, tout ce que vous voulez. Je veux bien admettre qu'il faut descendre au niveau de la relation individuelle. Enfin, je ne vais pas vous refaire le catalogue. Donc, je veux bien aller jusque-là. Et donc, si je peux rendre service en arrangeant le coup entre deux d'entre vous qui peuvent plus voir en peinture, allez, je prendrai le temps de le faire. Par contre, ne me demandez pas de mettre un chèque par-dessus, parce qu'il ne faut pas pousser non plus. S'il y a des dettes et des créances entre vous, je veux bien arbitrer, mais c'est pas moi qui passera à la caisse. Ben, quand même, c'est ce que Paul aurait dû se dire. Eh ben, il sait que ce service-là, si ça ne coûte rien à celui qui le rend, c'est facile, quoi. C'est facile de se poser en arbitre, de distribuer les bons points et les mauvais points en disant toi tu vas faire, même en disant s'il te plaît, s'il te plaît réconcilie-toi, bon, qu'est-ce que ça coûte quoi. Mais à partir du moment où on accepte de dire s'il y a une dette, c'est moi qui la paierai, là on est vraiment dans l'imitation de celui qui a dit s'il y a un contentieux et une lourde dette entre mon père et toi, c'est moi qui vais la payer à ta place. Il a fait ça pour moi. Il a signé à son père une reconnaissance de dette dans laquelle il disait: la seule sanction possible pour ce qu'il a fait, c'est la mort. Et cette dette-là, je vais la payer. Et j'écris de ma main et je signe. Et il l'a fait. Le prix de la réconciliation, c'est ça, parfois. Ça a été ça pour moi. Et en fidèle imitateur de son maître, ça ne va pas lui coûter la vie, en l'occurrence, à Paul. Ça ne va peut-être pas lui coûter grand-chose, parce que vraisemblablement, Philémon va dire « Non, ça va, tu ne vas pas en plus payer la dette d'Onésime. » Mais en tout cas, l'intention est là. Et si je ne suis pas capable de mettre cette intention-là dans la démarche que je peux faire le jour où Dieu me place dans la situation où Paul a été placé entre Onésime et Philémon, bah, va te rhabiller, quoi. Va te rhabiller. D'ailleurs, tant que je ne serai pas capable de ça, Dieu ne me mettra pas dans cette situation-là. Parce que il faut que j'accepte l'idée que je dois payer de ma personne. Et que la paix et la liberté entre les uns et les autres, ça a un prix. Et que si je veux être un artisan de cette liberté, eh ben, il faut que j'accepte de le payer, ce prix. Sinon, c'est du verbiage. Alors, voilà, je m'arrête là. Mais je veux dire, on peut faire de grandes choses si vraiment on entre dans cette démarche. Parce que la première des choses qu'il faut constater quand on lit cette lettre, mais ça ne vous a pas échappé, mais je termine par là, j'allais dire par où j'aurais dû commencer, c'est que Dieu va se servir pour rendre la liberté à deux hommes, un maître et son esclave, pour leur rendre une vraie liberté, une liberté totale, qui va complètement guérir le passé. Dieu va se servir de quelqu'un qui n'est lui-même pas libre, puisqu'il est prisonnier. Donc Paul va être capable de donner de la liberté alors que lui-même n'en a pas. Et c'est ça la force de Dieu et la force de l'Esprit-Saint. C'est qu'il nous rend capable de donner aux autres ce qu'on n'a même pas pour nous-mêmes. Alors moi, cette petite lettre, elle me dit, et vous l'avez compris, que le chemin en ce qui me concerne est encore long. Mais on a des encouragements et on a des gens à imiter.